compagnie des revues aujourd'hui avec vous, Éric Libiot, rédacteur en chef des pages culture du magazine L'Express. Bonjour Éric.
Bonjour Mathieu.
Alors vous allez nous parler aussi des séries.
Eh bien écoutez, je vais vous parler surtout d'un grand thème, d'un grand débat, littérature et cinéma, mariage ou divorce. Débat qui se décline maintenant en littérature, série et cinéma, mariage ou divorce. Ah oui. Votre émission en est le témoin, mais il faut parfois remettre les pendules à l'heure afin d'être ni en retard ni en avance, mais à peu près au bon endroit, au bon moment. Et s'il faut aujourd'hui célébrer l'âge d'or des séries télé, vous le faites formidablement bien toute cette semaine, comme un signe des temps et d'une époque à la recherche de romanesque pour nourrir un imaginaire abîmé par un surinvestissement dans une technologie galopante, il faut redessiner la chronologie des choses afin de savoir qui de la poule ou de l'œuf a fait la télé aujourd'hui. Alors oui, les Sopranos, on en parle très bien aujourd'hui. Alors oui, Six Feet Under, 24 heures chrono, Lost. Mais aussi et surtout New York Police Blues, série créée par Steven Bochco et David Milch, diffusée en France sur Jimmy en 1994. Jimmy n'existe plus, vous n'étiez même pas né, Mathieu.
Si, j'ai un vague souvenir de Canal Jimmy quand même.
C'est l'histoire d'un commissariat de police à New York, petites et grandes histoires, enquêtes et drames personnels, 261 épisodes sur 16 saisons, pas loin de 80 récompenses.
Bon, ça veut dire qu'on a oublié de parler de cette série. Pourquoi faudrait-il y revenir, Éric Libiot?
Parce que finalement, NYPD Blues marque véritablement l'entrée des séries dans la cour des grands, dans l'âge d'or de la télé, ou disons un prologue en tout cas. L'idée géniale de Bochco et Milch, c'est une enquête par épisode et des histoires personnelles qui parcourent toute la saison. Bochco avait déjà utilisé ce principe dans Capitaine Furio, mais avec beaucoup moins de succès. Ce type de récit est aujourd'hui présent dans quasi toutes les séries télé. Idée géniale donc de Bochco et de Milch, oui, mais que l'on doit à l'écrivain Ed McBain, créateur de la série du 87e district, dont le premier roman est paru en 1956, là vous étiez peut-être pas né non plus,
non.
À la série noire sous le titre du ballet, je vous en prie. En tout, 53 romans de 1956 à 2005 dans lesquels on suit la vie des flics du 87e district, donc Steve Carella en tête, mais aussi Meilleur, Cotton Hose. Ed McBain d'ailleurs n'était pas était un petit peu agacé parce qu'on l'a pas reconnu suffisamment pour cette brillante idée, et il faut aujourd'hui réhabiliter Ed McBain, immense écrivain, dialoguiste hors pair, très très bien traduit en France d'ailleurs par Jacques Martinache, qui a non seulement inventé un genre mais s'est fait le portrait d'une ville, New York donc, sur 50 ans. Le polar, comme souvent, a mieux raconté le pays que n'importe quelle autre littérature. Alors vous le savez, Ed McBain, son vrai nom c'était Salvatore Lambino. Mm-hmm. Il avait d'autres pseudos comme Evan Hunter, sous lequel il a adapté quand même pour le cinéma un roman de Daphné du Maurier, Les oiseaux, mis en scène par Hitchcock, avec qui il a aussi collaboré, avec la série Alfred Hitchcock présente, le cinéma, le roman, la télé, la littérature, on n'en sort pas. D'ailleurs, en parlant de personnages récurrents de polar, de cinéma et d'Hitchcock, il faut signaler la réédition de la saga des Tom Ripley de Patricia Highsmith chez Kalman Levy. Ripley, escroc, aventurier, meurtrier, séduisant, véritable Janus des temps modernes.
Et oui, il faut le rappeler parce que Patricia Highsmith est un écrivain un petit peu oublié.
Ben oui, c'est un peu étrange. Alors, elle est évidemment vénérée par les auteurs, mais par le public, pas tant que ça. Highsmith, dont Delphine Perras fait le portrait dans l'Express cette semaine, est effectivement une autre écrivaine oubliée, vous venez de le rappeler, sans doute parce que son univers est un peu flippant, qui confronte le lecteur à la paranoïa et à la culpabilité, et elle voit en chacun de nous un meurtrier potentiel. C'est vous dire, Mathieu, si on est là dans les ombres des êtres humains. Aujourd'hui, Marilyn Clark ou Harlan Coben ont la cote, alors que franchement, leurs bouquins ne font mal à personne et font beaucoup plus de mal à la littérature. Alors, Patricia Highsmith était elle-même assez parano. Elle balayait d'un revers de main les adaptations cinéma de son œuvre. Alors, une piètre cinéphile, même s'il était un grand écrivain, parce que quand même, quand vous regardez la liste des romans adaptés les films adaptés de ses romans, c'est quasiment les meilleurs de leurs auteurs. L'Inconnu du Nord Express, d'Hitchcock, adapté par Raymond Chandler, autre grand écrivain. Plein Soleil, de René Clément, avec Delon dans le rôle de Ripley, et Marie Laforêt et Maurice René. Dites-lui que je l'aime, de Claude Miller, son deuxième film, sans doute son plus beau, Eau profonde, de Michel Deville. Et plus récemment, il y a 2 ans, Carole, de Todd Haynes, avec Cate Blanchett. C'est quand même pas rien. Alors finalement, à la question cinéma, télé, littérature, mariage ou divorce, eh bien je réponds quand même mariage. Mais s'il faut saluer les enfants, il ne faut pas oublier les parents.
Ben non, faut pas oublier les parents. Merci pour cette remontée dans l'arbre généalogique, Éric Libiot. Je renvoie nos auditeurs à vos articles dans les pages culture de l'Express, puis aux articles de vos collègues aussi.
Mais bien sûr.
Vous êtes le rédacteur en chef des pages culture. Allez, à bientôt.